commencer cette table ronde qui s'intitule « Faut que ça saigne, la fantaisie épique ça bastonne ». Donc, on va voir si c'est vrai. Alors, avec tout au bout, Bradley Pébolieu, que nous connaissons pour la traduction des 12 rois de Charakai. À côté de lui, Gabriel Katz, qui a publié de nombreux ouvrages, toujours dans le même univers général. Alors, je ne me trompe pas parce qu'il y en a beaucoup. On avait connu avec la trilogie du Puits des Mémoires. Voilà. Et puis ensuite, il y a La Maîtresse de Guerre. Et puis, plus récemment, et c'est peut-être sur ces ouvrages-là que l'on s'attardera plus à titre d'exemple, c'est d'une part le diptyque Eternia, avec la marche des prophètes et l'envers du monde. Et puis, le plus récent, La Part des Ombres, dont nous attendons avec impatience la deuxième partie. Voilà. À côté de lui, Lionel Damousse, qui, avec La Messagère du Ciel, vient de nous ramener lui aussi dans un monde sur lequel il travaille depuis des années, qui est le monde des Manégyres. Et on avait pu lire de lui avant La Volonté du Dragon et La Route de la Conquête, qui se passait à l'époque de l'établissement de l'Empire Tasmat. Et là, avec La Messagère du Ciel, on découvre la planète, on découvre les Manégyres quelques dizaines, deux siècles à peu près plus tard, grosso modo.
C'est un peu mystère.
Voilà. Et l'Empire n'existe plus. Et donc, on voit de quoi il retourne. Et à côté de moi, Olivier Gay, qui lui a publié d'une part récemment Les Épées de Glace, qui sont là reprises en un seul tome avec un peu revu et corrigé du Boucher de la Servante. Et ensuite, récemment, La Main d'Empereur, premier tome, et là, même remarque pour Gabriel Katz, dites-moi le deuxième. Et donc, avec ces quatre auteurs, je dois dire qu'effectivement, au niveau sang, sueur, combat, massacre, on est quand même assez bien servi. Alors, ma première question pour vous quatre, peut-être un petit peu provocante. Est-ce que de la bonne fantaisie, qu'est-ce que vous écrivez, ne peut être que gore?
Alors, je ne sais pas si elle peut être que gore, ce serait terrible de dire ça, mais en ce qui me concerne, s'il n'y a pas un minimum de violence, je m'ennuie. J'ai assez peur que si je m'ennuie, le lecteur s'ennuie aussi. Et d'une certaine façon, la douceur s'y est pas tellement à la fantaisie. Donc, je me suis longtemps posé la question, en fait, parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des confs aux imaginales, j'étais très souvent dans les confs, la baston, j'aime ça, quand ça saigne, j'adore, etc. Je me dis, merde, j'ai quand même une image terrible. Mais je pense que ça passe vraiment par ça. Je pense qu'il y a une jouissance assez profonde dans la violence très, très abstraite de la fantaisie, qui est peut-être un petit peu plus glauque dans le polar. Pour ma part, en tout cas, je crois que c'est indispensable.
En fait, l'héroïque fantasy, pour moi, c'est les deux parties. C'est la partie héroïque et la partie fantasy. La partie fantasy, peut-être parce que j'en ai lu beaucoup trop lorsque j'étais ado, jeune adulte, etc. Donc la partie fantasy, telle qu'on peut l'imaginer, a fini un peu par me lasser. Alors que la partie héroïque, au contraire, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant. Donc héroïque, ça passe effectivement, ça peut passer par la violence. Les combats à 1 contre 10 avec une main dans le dos, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il y a une inspiration qui vient de loin, c'est tous les films de KPDP qu'on avait regardés dans ce domaine-là. Et puis sinon, je rejoins ce que dit Gabriel, c'est qu'on a tous voulu un jour se venger d'un boss. On a tous un jour trouvé que telle personne était désagréable et finalement trancher des têtes et arracher des membres, ça fait toujours plaisir.
Je pense pas forcément que la fantasy doive toujours remplacer par la violence, mais je pense que le genre n'est pas forcé de passer par là, mais je pense que globalement, il y a quand même beaucoup de narration qui est une narration d'aventure, qui à un moment passe par là. Parce que si on a justement, comme dit Olivier, il y a un aspect héroïque, il y a un aspect de triomphe de l'adversaire, et à un moment, ça passe parfois par lui casser la figure à l'adversaire, pour qu'il arrête de vouloir conquérir le monde. Bon sang. Alors je pense qu'il existe de l'extrême fantasy beaucoup plus contemplative où la fantasy c'est la fille du conte. Dans le conte il y a l'aspect merveilleux, il y a l'aspect presque contemplatif, il y a l'aspect magique et tout, mais en fait, dans le conte, il y a aussi beaucoup de violence. On connaît souvent les contes de fées, les versions qui ont été édulcorées par les folkloristes, mais à la base, les contes dans leur version paysanne sont beaucoup, beaucoup plus gore et beaucoup plus sombres. Je ne vous raconterai pas la version de la Belle au Bois Dormant, ni ce qu'il a révélé exactement, en fait. Qu'est-ce qu'on en sait. Donc, voilà, la fantasy, elle est à ce carrefour. Et voilà, quand on a un héros et qu'on veut le voir triompher, bah, globalement, on veut le voir triompher de l'adversité. Et parfois, ça veut dire que, effectivement, on en passe par la fond. Après, l'aspect gore, ça dépend, et ça dépend où l'auteur met son curseur. Dans mon cas, je voulais faire de la fantasy post-apocalyptique. Donc, dans le côté post-apocalyptique, il y a forcément quelque chose d'un peu sombre. Et dans le côté sombre, le gore, elle est avec.
For me, I think that it depends on what subgenre that we're talking about in fantasy. Some lends itself to war and blood and gore battles than do others. Modern urban fantasy doesn't tend to have as much violence. There might even be more romantic elements than there are in, say, typical epic fantasy. I think part of what we see in any subgenre, really, is a continuation and an addition from what came before. I personally love Tolkien. I'm a Tolkien disciple. I love The Lord of the Rings, and I love especially the breadth and depth of those stories. So, in addition to wanting to explore a deep, wide, complex world, I'm also looking to explore how cultures within those worlds relate to each other, what difficulties they might have with one another, and what conflicts that might lead to. I'm not always interested in having battle or war per se to solve things, but I think at times that can be inevitable. I'm also interested in politics and how that can play into it. The path that leads to war, you know, why does it have to be that way? Why can't they find peace? And sometimes that is as interesting as the war itself and the fallout of that.
Pour moi, en fait, ça dépend du sous-genre de fantasy dont on parle. Il y a, par exemple, des genres de fantasy dans lesquels il y a beaucoup plus d'hémoglobine et de combats, de batailles que dans d'autres. Par exemple, ce qu'on appelle la fantasy urbaine, qui est un peu plus moderne, est moins violente et peut parfois comporter des éléments même un petit peu romantiques. En tout cas, plus que dans la fantasy épique traditionnelle. Donc moi, ce que j'aime bien justement, c'est réfléchir à tous ces sous-genres et puis essayer d'apporter quelque chose par rapport à ce qui s'est fait avant. Alors, je suis un grand fan de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, évidemment, j'aime beaucoup justement la portée, l'envergure et la profondeur de cette œuvre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement, en plus d'explorer des mondes qui soient aussi profonds, qui aient une aussi grande portée, qui soient aussi complexes que ce qu'a pu faire Tolkien, j'essaie aussi d'explorer la façon dont différentes cultures peuvent interagir entre elles, malgré leurs différences, et puis ce que ça peut créer de conflits. Moi, je m'intéresse justement pas forcément qu'aux batailles en elles-mêmes, aux combats, mais plutôt à leur côté inéluctable. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est bien sûr la dimension politique et le chemin, la voie qui va mener justement à la guerre. Pourquoi est-ce que justement les différentes cultures n'arrivent pas à trouver la paix ?
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Bradley Beaulieu, parce que justement, ça m'amène à une autre question que j'ai, qui est que dans tous les quatre, dans vos romans, vous utilisez beaucoup la manipulation politique et la terreur qui peut s'en suivre comme instrument saigne beaucoup, mais ça saigne parce que c'est volontaire, parce que c'est en fait un instrument de pouvoir politique. Alors, on a par exemple, commençons avec Olivier, chez vous, Bac, qui devient la main de l'empereur. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait eu d'abord la fin de sa vie, et maintenant, on a le début de sa vie, on comprend mieux ainsi ce qui a pu devenir après. Bac, qui est, bon, pour brièvement le dire, hein, combattant dans les arènes, il devient un soldat hors pair, et il devient le jouet contre eux, et il devient un homme qui s'attira dans sa communauté.
Alors c'est vrai qu'en fait, j'ai écrit de manière un peu étrange, puisque j'avais d'abord écrit Les épées de glace, qui racontait comment cet homme justement vengeait sa fille qui meurt à la capitale, et la manière dont il terrorisait tout le monde à cause de la légende qu'il avait construite autour de lui. Et en fait, quand la série, quand l'intégrale a bien marché, j'en discutais avec Brajlon, avec Stéphane Marsan, et il m'a dit, mais ça va pas être facile, si tu veux écrire quelque chose sur la jeunesse de Rec, de continuer à le rendre sympathique, sachant qu'il a tué des femmes, des enfants, brûlé des villages, enfin, des trucs normaux qu'on fait tous en se levant le matin. Et du coup, la vraie difficulté, ça a été justement de le placer au cœur des intrigues, pour montrer que c'est un personnage qui, par certains côtés, peut passer pour un espèce de super-héros. C'est vrai qu'il est extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement compétent. Mais à côté, surtout dans la main de l'empereur, il a 20 ans. Et on a tous eu 20 ans, et à 20 ans, on se fait quand même assez facilement manipuler pour des intérêts supérieurs. Et je terminerai en disant que ça existe dans la vie réelle. Moi, je me suis inspiré, par exemple, sur l'empereur qui va envoyer Rec au front pour dire « Regardez, c'est un super gladiateur, il va au front ». Moi, ça m'avait amusé de voir que, par exemple, au moment de la guerre d'Indochine, ils avaient mis sous les drapeaux Johnny Hallyday, voilà, en disant « Regardez, c'est incroyable, vous avez vu, même lui s'engage, c'est formidable, mais quel effort de guerre ». Et j'ai trouvé ça assez vraiment intéressant, la manière dont ils avaient utilisé finalement la réputation de la personne pour mettre les gens sous les drapeaux. Donc là, c'est vrai que dans mon roman, Rex se fait manipuler d'un côté à l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit la main de l'empereur, tu dis la main de l'empereur comme on voit dans le Trône de Fer par exemple, c'est-à-dire le bras droit de l'empereur. Mais je fais non, en fait, c'est la main de l'empereur dans le sens il danse dans la main de l'empereur. Il se fait manipuler par l'empereur.
C'est la main armée de l'empereur.
C'est la main armée de l'empereur.
Lionel Damus, c'est la même chose chez vous. Il y a la manipulation, mais alors là, elle se fait, on va dire, à une autre échelle, parce que ce sont les dieux qui s'amusent.
Oui, alors, dans la messagère du ciel, en deux mots, les dieux se livrent une guerre très ancienne, ils sont probablement des menteurs et hantés, et régulièrement, en tout cas, l'un d'eux désigne sur Terre ce qu'il appelle un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler en son nom, qui entend sa voix directement, et les choses deviennent un peu compliquées quand c'est une société extrêmement patriarcale, une religion extrêmement pas sympathique, extrêmement dure, dictatoriale et patriarcale, et le jour où vient un jour où c'est une femme qui est désignée comme héros, et c'est une femme en plus qui veut rien avoir avec ce monde-là, et qui se retrouve dans la situation très compliquée de devoir essayer de sauver un monde qui n'a pas envie que ce soit une femme qui le sauve. Donc, je pense, derrière ça, effectivement, j'aimais beaucoup ce que disait parlait Beaulieu à l'instant sur je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle, finalement, la violence forte trouve son chemin dans la fantasy, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est qu'il y a toujours une part en moi qui ne comprend pas très bien comment l'être humain, il y a une part de moi qui est toujours tendance à le considérer comme fondamentalement décent, peut dégénérer dans la violence, la terreur, la répression, la dictature, etc. Et quels sont les mécanismes psychologiques qui conduisent à ça? Et dans la messagère du ciel, il y a effectivement, que ce soit au niveau divin ou au niveau du pouvoir politique, un certain nombre de jeux de pouvoir et de désirs qui, finalement, en général, sont assez justes et assez bons et qui se retrouvent toujours fréquemment dévoyé sous le titre que le fait que le mieux est toujours malheureusement l'ennemi du bien.
Gabriel Katz, c'est un peu la même chose. L'être Marek, c'est ce que vient de dire Lionel Damus. À la base, c'est un type bien bon, il est combattant dans les arènes, mais ça c'est son boulot. Mais à côté de ça, c'est un type bien, il devient.
C'est surtout un type normal en fait. C'est un type normal, c'est un type comme tout le monde, si j'ose dire. Bon, tout le monde, on n'est pas tous gladiateurs à se saigner dans les arènes, mais c'était son boulot, il le faisait pas mal. Et au contraire, quand il arrive en fin de carrière, ce type, il se dit, je vais élever mes gosses dans une ville où il n'y a pas de violence, où on n'est pas complètement obtus, où on n'est pas complètement bouché. Et justement, mes enfants ne seront pas moi. C'est-à-dire qu'ils seront éduqués, ils seront intelligents, ils seront bourgeois. Et voilà. Et en fait, sur la route, il va se faire beaucoup plus violent que les arènes, c'est-à-dire une guerre de religion. Et le principe de la religion, en fait, c'est que ça justifie la violence de façon complètement radicale. C'est-à-dire que Pierre Desproges disait un truc, que je ne me rappelle plus la citation exacte, mais il disait quelque chose comme « l'ennemi, il est très très bête parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi ». Donc c'est vraiment ça. La religion fait que, du bon côté de la barrière, on peut se permettre à peu près toutes les exactions, parce que, un, c'est Dieu qui le veut, et deux, c'est bien, parce que bon, si on est radicaux, ça va quand même, ça va nettoyer un petit peu le monde de la vermine en face. Lefmarek, lui, se retrouve complètement coincé dans une guerre de religion qui ne le concerne vraiment pas, mais où il a une vengeance personnelle, finalement, qui va le pousser de façon presque aveugle. Et la violence aveugle, c'est un peu la religion, quand même, je crois. Donc c'est vraiment ça, c'est une façon de voir les choses qui fait que le type en face, c'est le mal, c'est la violence, quant à moi, c'est le droit.
Chacun est le droit, c'est ce qui est illustré très bien chez vous, Léon Adams, parce que chacun est le porte-parole de Dieu, sauf qu'il y a deux dieux différents, mais ça, ils ne le savent pas.
C'est extrêmement léger souci, puisque forcément, le bon Dieu, c'est toujours celui que j'ai moi. Je me suis aussi amusé un peu dans la messagère. Je suis allé assez loin, en tout cas j'espère, dans justement ces questions qu'évoque Gabriel sur la question de la religion, en quoi c'est un outil certes de stabilité sociale et d'ordre, mais au dépend de tout ce qui ne lui ressemble pas, en tout cas dans ses versions les plus archaïques et les plus médiévales. Ça peut être un outil nécessaire dans une période difficile et compliquée, mais malheureusement, c'est peut-être lié à la nature humaine. Et voilà, ce qui m'amusait aussi d'explorer au maximum, c'est en quoi on peut essayer de rester quelqu'un de bien en essayant de se placer en dehors de ces systèmes-là, qui nous dictent comment penser, parce qu'on considère que globalement, on est trop bête pour savoir quoi penser.
Bras des Beaulieu, c'est un peu ce qui se passe à Charakaï. Que vous pourriez peut-être commencer par présenter également, et ensuite à Charakaï, l'avantage c'est que les dieux se sont exprimés, ils ont sauvé la ville quelques centaines d'années auparavant, 400 ans auparavant, et puis ils ont donc établi la religion, ils ont dit que pour protéger les villes, il leur fallait un peu du sang, et il y a 12 rois immortels qui sont là, et comme ça tout rien ne peut. Donc, les 12 rois immortels ont été établis par les dieux, donc c'est l'ordre divin parfait, et à partir de là, plus rien ne peut.
So, in Twelve Kings of Charakai, it's a story that's told in a desert, a vast desert, with ships that sail the sands. The sands have become the seas, in essence. And there are a pantheon of gods, and they're more of the Greco-Roman style gods. They meddle with the lives of humans. They are capricious. They do things that are understandable, perhaps, only to them. And that was one of the things that I was interested in exploring when I first started writing the books. And in fact, we find out as the story progresses that there were other gods, there were older gods, the elder gods, or first gods. And they created the world, they created man eventually, they created the young gods, and then they left. No one knows why. It's been too long for humans to understand why the old gods might have left. But it created a bit of turmoil between the young gods and the humans, the mortals that remained. So that created a lot of strife between the people that populate the desert and the young gods,
who are in some ways jealous of the mortals that live there. And so they exist. And then I also wanted one more level of power in the desert. And these are the kings. The 12 kings of Sharkai created a, made a bargain with the gods of the desert to secure their place. And a lot of the story is about finding out why they made that bargain and why the gods, in fact, wanted to make that bargain as well. And so one of the things, we talked about politics a little bit and how that comes into play. And I think one of the things that I'm interested in exploring is how the personal can relate to the political. I love reading and writing stories where a small group of people can affect a huge swath, a large epic story, and vice versa. That story affects them, and that creates a bit of a loop as the story moves along. So that was one of my main goals in writing Poking Shark Eye.
That was awesome. Thank you. Le récit se passe dans le désert, dans un désert très 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 très, très vaste, qui est parcouru par, par des bateaux qui voguent sur le sable, qui a donc fini par remplacer la mer. Et à Sharkai, il y a donc un panthéon des dieux, qui ressemble plutôt à des dieux gréco-romains, dans le sens où ils interfèrent dans la vie des humains, ils sont capricieux, et puis ils font des choses que seuls eux comprennent. Donc ça, c'était une des choses que j'avais envie d'explorer en écrivant ce livre. Et puis, ensuite, à mesure que j'avançais dans l'histoire, eh bien, il y a aussi des dieux encore plus anciens qui sont apparus et qui, eux, avaient créé le monde et avaient créé l'humanité qu'on retrouve à Sharkai et avaient créé les dieux plus jeunes. Je parlais avant, puis qui ensuite avait disparu. Et ça s'est passé il y a tellement longtemps que personne ne se souvient pourquoi ils ont disparu. C'est un grand mystère. Mais leur départ, et puis ce qu'ils avaient créé, le fait qu'ils avaient créé cette jeune génération de dieux, et puis ces mortels, eh bien, ça a créé beaucoup de dissensions entre les deux peuples. Parce qu'en fait, les dieux, cette jeune génération de dieux, étaient jaloux des mortels qui peuplaient le désert depuis longtemps. Voilà, et donc, les dieux sont très présents dans mon travail. Et donc, les dieux dont je parle, cette jeune génération, cherchent à obtenir plus de pouvoir sur le désert. Et c'est justement... ils ont donc donné l'immortalité à 12 rois qu'ils avaient choisis, avec qui ils ont passé un pacte. Les rois ont passé un pacte avec les dieux pour s'assurer de pouvoir régner de façon immortelle sur Sharkai. Et donc l'histoire, le premier tome en tout cas, tourne vraiment autour de cette question de pourquoi les dieux ont fait ce pacte avec les 12 rois. Et tout à l'heure, je disais que je m'intéressais beaucoup à l'aspect politique des choses, et je m'intéresse aussi à la façon dont les actes perpétrés par quelques individus à un niveau personnel peuvent avoir des répercussions à un niveau politique très large. Voilà, moi j'aime beaucoup lire justement et écrire des histoires qui mettent en scène des petits groupes d'individus qui vont affecter un très très large très 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 grand nombre de personnes, et c'est comme ça que je construis mes histoires épiques. Et puis,
what did you say? The loop thing?
Oui, donc ce petit groupe d'individus qui va voilà, avoir des répercussions énormes sur un nombre énorme de personnes, et puis à l'inverse, un système de justement de boucle, et bien ensuite les répercussions qu'ils ont eues sur ce grand nombre de personnes finissent par les affecter eux aussi.
Et d'ailleurs, à Charaka, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part, on a donc les 12 rois qui utilisent le principe de la terreur, les représailles massives. Si on s'attaque à un de leurs soldats, on exécute 10 ou 20 personnes dans la population au hasard pour maintenir l'ordre. Et il y a l'effet miroir, sont les autres sans lune, qui sont les opposants et qui eux aussi pratiquent la terreur. C'est Charaka, et ça ressemble beaucoup à notre monde contemporain.
Yeah, so there's these, one group of people has resorted to violence in answer to the violence that the kings commit. And so those two groups exist, are fighting one another throughout the course of the story, and they both become barbaric in the methods that they'll use to achieve their aim. And one of my main goals was to have a character, Chaedo. So the main character doesn't want to resort to those things, but she knows that she has to use some violence. The kings will not be deposed without violence, but she does not agree with mass violence. And so she's trying to straddle the line between making the kings pay for what they've done and not taking it out on the populace.
Donc, c'est dans Charaka, il y a effectivement un groupe qui a recours à la violence en réponse justement à la violence qui est imposée par ces 12 rois. Et ces deux groupes ne cessent de s'affronter. Et finalement, eh bien, les deux finissent par tomber dans des travers très très barbares, à travers leur méthode et puis leurs intentions aussi, leur but. Et moi, un de mes objectifs principaux quand j'écris le livre et en créant le protagoniste, la protagoniste Chaedamin, c'était justement de montrer que certains personnages ne veulent pas avoir recours à cette violence, voudraient faire autrement, mais ils n'ont pas le choix finalement, parce qu'elle s'impose à eux. Et donc, Chaedo, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une partisane de la violence de masse, des massacres, mais elle est amenée à perpétrer des actes violents. Et donc, elle se retrouve un petit peu à cheval entre deux mondes, voilà, parce qu'elle veut se venger auprès des rois. Pour une histoire qui est aussi personnelle, hein, mais en même temps, elle ne veut pas non plus qu'il y ait de retombées sur la population.
Alors, ça, c'est une des méthodes, et ce qui m'a frappé en lisant mon roman ou trois, c'est qu'il y a une autre méthode aussi qui est utilisée pour pouvoir massacrer les gens en se donnant relativement bonne conscience, c'est de déshumaniser totalement l'adversaire. Alors, par exemple, lui qui est chez vous, il massacre les bouchers dans la main de l'empereur, parce que après tout, ce sont des sauvages cannibales, de partir de là. Et de manière intéressante, il est ensuite dans son vieillage, dans les épées de glace. Là, au contraire, il est envoyé au nord, aux deux extrêmes, mais il combat toujours des barbares, des sauvages, donc là, on peut massacrer sans problème.
Alors, c'est vrai que là, il y a deux approches différentes par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que moi, je pars du principe, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure, que la plupart des gens sont quand même des bons gars, et que, de manière générale, on n'a pas tous envie forcément d'aller triter notre prochain au son du canon. Donc, la plus grande victoire, la plus grande manipulation que peuvent faire les politiques de tous bords, alors on parlait de politique, on peut parler de religion, etc., mais en tout cas, les gens qui veulent qu'on aille se battre, c'est de nous donner des raisons de le faire. Et donc, les raisons qu'on peut avoir, c'est soit de se défendre, donc ils sont en train de nous envahir, ils veulent nous envahir, donc il faut les frapper en premier, Ça peut être que effectivement complètement les déshumaniser. Donc là, typiquement, un des mensonges qui est raconté dans La Main de l'Empereur et que Rey va croire pendant une grande partie de l'histoire, c'est que les Kushites sont cannibales, attaquent les gens de l'Empire, y compris des personnes qui peuvent être proches, mangent ces personnes, et donc il va évidemment réagir contre eux, pas comme il pourrait réagir face à des humains ordinaires, mais face à des bêtes sauvages. Et donc c'est finalement, c'est toute la manipulation de l'Empereur de faire passer des humains comme vous et nous pour des bêtes sauvages. Et c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans toute l'histoire, que ce soit l'histoire de France, l'histoire du monde de manière générale. Pour revenir sur les guerres de religion, les croisades, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, on déshumanisait au nom de la religion les populations en disant bah, on va aller leur péter la gueule pour revenir sur la base. Et je terminerai en disant que c'est très différent sur sa jeunesse et sur son âge adulte, quand il a 50 ans, parce que justement, il est passé d'une guerre de conquête. La guerre qui est menée contre Kush, c'est une guerre de conquête. Ce qui s'est passé avec l'Empire romain, puisque dans ce coup, l'Empire romain était une grosse inspiration pour moi dans ces différentes histoires, c'est-à-dire ce qu'on appelait le limes, c'est-à-dire la ligne Maginot qu'ils avaient construit à l'époque pour arrêter les frontières de l'Empire et défendre ce qui avait déjà été fait. Donc finalement, Rec, pendant sa jeunesse, avec un empereur conquérant, c'est quelqu'un qui va aller chez les autres pour finalement récupérer leur territoire, alors que Rec, au crépuscule de sa vie, pardon, c'est quelqu'un dans un château perdu dans le nord qui va défendre les frontières de l'Empire contre des gens qui voudraient rentrer, mais qui n'a plus de but, effectivement, conquérant.
C'est tout le paradoxe, si on reprend le cas de la religion dans ces époques sombres et médiévales, c'est tout le paradoxe de ce qui habite le cœur de certaines religions, en tout cas de celles qu'on connaît, notamment les religions monothéistes qu'on connaît bien. C'est que toute prêche le bien et l'amour du prochain quand c'est un être humain. Et donc à partir du moment où on a besoin justement de les péter la gueule au voisin, il suffit très facilement de décider que c'est pas un être humain. Et notre histoire est jalonnée d'étapes comme ça. Il y a une histoire véritable qui pour moi cristallise ce paradoxe que j'ai du mal à concevoir. Je pense que c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de religion aussi à travers les bouquins. C'est qu'à l'époque où l'Empire espagnol conquérait l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, il y avait un usage, une loi qui était très forte, qui fait que quand les conquistadors et les armées entraient en contact avec une tribu qu'ils n'avaient jamais vue, il y avait obligation de lire toute une déclaration en espagnol, à des types qui évidemment n'avaient jamais vu un espagnol de leur vie, disant « Voilà, nous sommes les Espagnols, nous venons de tel endroit, nous représentons le roi machin et la reine truc, nous sommes envoyés au service au nom de Dieu le Tout-Puissant, etc. » Et nous venons par ici, la présente, vous dire que vous êtes en train d'être annexé et que d'ailleurs vous devez vous convertir à la seule vraie religion. Les types en face, évidemment, ne comprenaient strictement rien, et puis après, on sait comment ça se terminait. Donc, mais il y avait une espèce de bonne conscience, des gens disaient, on leur a donné une chance. Et cette espèce de paradoxe surréaliste de dire, on leur a dit, mais ils ne nous ont pas écoutés, c'est bien que, franchement, il fallait bien qu'on fasse ce qu'on fait. Il y a un truc qui, m'a toujours mis beaucoup en colère. Et c'est ce genre de. Et quand on étudie un peu l'histoire des religions et des grands mouvements, tout un tas de justifications extrêmement paradoxales de cet ordre-là, je pense que les gens individuellement étaient profondément convaincus du bien fondé de la démarche. Et si vous la regardez en plus, vous dites, voyez bien qu'évidemment ça marche pas. Et je suis toujours un peu fasciné par la capacité de l'humanité à se construire des ennemis. Et on sait bien, ça a été utilisé pendant toute l'histoire humaine, que la meilleure manière d'unir un peuple, c'est de lui désigner un ennemi commun.
C'est exactement le mécanisme Gabriel Katz dans la part des ombres. Là, on est en Goranie, occupé par les traceurs. Les traceurs ont compris le pays. Ils sont bien supérieurs aux Goraniens, et là on peut penser par les Goraniens se révolter parce que les Français sont des barbares, incultes qui ont la France des Gaules.
Alors les traceurs n'occupent pas la Goranie, ils la pacifient. Ils la pacifient et ils ont nommé non pas un roi, le roi est toujours là, il règne, mais il y a un gouverneur de traceurs qui est là et qui surveille parce que finalement on pacifie. En fait, on évite les invasions barbares, on évite les débordements, on rétablit l'ordre, c'est important, l'ordre avec un grand O. Donc, les traceurs, c'est vraiment ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ont fait tous les conquérants dans l'histoire, en tout cas du XXe siècle. C'est de dire, moi, je pacifie. Par exemple, les nazis ont pacifié la Bohème-Moravie, la Tchécoslovaquie, tout ça. Ils ont fait un protectorat. Protectorat. Je protège. Donc, c'est vraiment ce que font les traceurs. Et les traceurs, ils ont leurs sous-hommes aussi. Donc, leurs sous-hommes sont les gens de l'Est, les gens avec les yeux bridés, qui sont de l'autre côté de la chaîne de montagne, qui ne les aiment pas. Ce qui fait qu'en fait, quand il se passe quelque chose, quand il y a un incendie à un moment dans le bouquin, on se tourne vers les coupables. Qui sont les coupables? C'est les sous-hommes, c'est les chis, c'est-à-dire les gens de l'Est. On n'a strictement aucune preuve. On fait un petit peu comme Robespierre avec la loi des suspects. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, si justement il y a un incendie, ben, ça doit être les sous-hommes. Donc on en tue 10, 20, 30, 40, on en parle, etc. Après, ça va mieux. Mais le principe est vraiment de se dire, peu importe le coupable, de toute façon, il y a un coupable par destination, c'est celui, comme disait Lionel, qui n'est plus humain. C'est l'autre, c'est le sous-homme, c'est celui qui n'a plus de valeur, etc. etc. Donc ça justifie totalement la violence, et ça permet effectivement de se poser comme un protecteur, effectivement, des gentils contre ces sous-hommes-là, et deux, ça permet de faire à peu près tous les exemples qu'on veut sur des gens qui soient innocents ou pas, c'est pas très très important, en essayant son autorité. C'est très pratique, en fait.
Ce qui est encore plus pratique, Lionel Dabous, là, quand vous avez un peu résolu le problème, c'est que l'armée d'Asca et de son prophète Ganar, là, ce sont des monstres, il n'y a pas de discussion possible.
Ce sont des monstres, effectivement, et donc c'est donc Asca, les troupes de l'autre dieu, qui sont plutôt des forces extrêmement chaotiques, qui sont soumises à la magie totalement sauvage, qui ravagent les étendues au-delà du royaume, on ne sait pas trop d'ailleurs, parce que énormément de savoir a été perdu. Ça provoque tout un tas de mutations. Et puis ces types-là restaient au loin, tout allait bien, parce que c'était très chaotique, donc ils se dévoraient les uns les autres, jusqu'au jour où il y a un prophète, sur l'exemple des héros de l'autre dieu, Fer, et qui lui trouve pouvoir donner un ordre au chaos et aller conquérir. Le problème, c'est que entre ces deux dieux, il y a un dieu mauvais et un dieu méchant, à peu près, dans l'idée. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas tellement dire lequel est lequel, en fait. Les hommes sont soumis à ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en général, c'est aussi la marge de l'histoire. Quand on est dans une époque, Christopris, tout à l'heure, il disait un truc très vrai, il disait la Deuxième Guerre mondiale, quand on était dedans, on ne savait pas que c'était la Deuxième, et on ne savait pas qu'elle s'appelait forcément la Guerre mondiale. On l'a su forcément après. Quand on est immergé dans l'histoire, on ne sait pas les événements qu'on vit, on ne sait pas les événements qu'on vit aujourd'hui, à quoi ils mèneront. Je me demande toujours quelle est la puissance de vision de l'être humain, de l'individu véritablement, qui dispose de son libre arbitre, de sa volonté, de son intellect, de choisir d'en faire usage ou pas, de remettre en cause ce dont il vient ou pas. Et à partir du moment où il est immergé dans ce genre de dynamique historique, quelle est sa capacité, sa marge de manœuvre à prendre de la hauteur et à éventuellement se rebiffer contre l'ordre établi et se dire non, y a-t-il un compas moral inné chez l'être humain qui lui permet justement d'éviter la violence ou d'essayer d'en faire usage à bon escient? Y a-t-il un bon escient et un bon usage de la violence? J'ai absolument aucune des réponses à toutes ces questions. Je pense que c'est pour ça que j'écris des histoires qui parlent de ça.
Tous dans vos romans, les personnages principaux font usage de la violence quelque part à bon escient et s'auto-justifient. Par exemple, Brad Évolue à Charakai, c'est là, elle fait tout ce qu'elle a à faire, c'est totalement rationnel, elle veut quelque part se venger. Donc à partir de là, tout est bon.
I certainly wanted to, let me take a step back. In a previous trilogy, I tried to make the characters very gray, all across from the enemies, whoever they were, and there were several different factions of enemies, to the heroes that we saw on the point of view character side. And I think I liked what I did, but I may have taken that a little bit too far. I actually think that there's a use for having a character that has a white hat, so to speak, someone that is very good, and having an evil, again, quote unquote, character, because those are the types of stories, A, that we're used to, because those are the kinds of stories that are passed down through the ages. Good fighting evil comes up again and again. So I actually did try in this book, in 12 Kings of Shaddai, to have a character that was a bit more good, a bit less gray, and have the 12 kings, the clear enemies, be a bit more dark, a bit more black. And so I do hope Shaddai is heroic and does things right. You know, I'm trying to project myself through her and what I want in that situation. So I hope she comes across that way.
Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, avant de répondre, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Donc, dans une trilogie que j'avais écrite précédemment, j'ai essayé de créer des personnages qui sont un peu moins archétypaux, que ce soit au niveau des ennemis. Il y avait donc différentes factions d'ennemis, de méchants, si vous voulez, ou que ce soit du point de vue du héros, donc celui qui, comment dire, à travers qui la narration était racontée. Mais bon, j'étais assez content du résultat, mais je sais pas, après en y repensant, j'ai trouvé que j'étais allée un petit peu trop loin. Parce qu'en fait, je pense que dans le fond, c'est pas si mal d'avoir des personnages foncièrement bons et des personnages qui incarnent le mal. Parce que si on y pense, tout ça, ce sont le genre d'histoire, de récit que nous sommes habitués à entendre depuis que nous sommes tout petits. C'est ça un petit peu les histoires qui sont traditionnellement transmises, des histoires où le bien et le mal sont assez bien identifiés. Alors j'espère justement que dans les 12 rois de Charaka, enfin, excusez-moi, quand j'ai écrit les 12 rois de Charaka, je me suis efforcée de rendre Cheda justement un peu meilleur, voilà, que ne l'étaient mes personnages bons dans la trilogie précédente. Et de même, j'ai aussi fait en sorte, je l'espère, que les 12 rois soient un petit peu plus sombres, un peu plus noirs que les méchants dans la trilogie précédente. Et j'espère que Cheda, cette protagoniste, fait le bien et que ce qu'elle fait est rationnel et justifié. On pourrait dire que je projette en fait à travers elle et j'espère que c'est ce que les lecteurs perçoivent.
Ce qu'elle fait, certainement c'est là ce qu'elle fait est bien, mais elle le fait d'abord dans un but personnel avant de. Elle fait passer son but personnel avant celui de la communauté quelque part.
One of the things I was very interested in exploring early on, when I first started understanding who Cheda was her relationship to her own culture. Her mother is killed when she's young, and she's killed, her mother is killed by the 12 kings. We don't know why, but another aspect of the story is that her mother never shared her heritage. She didn't tell Cheda where she came from. Cheda never really understood why until later. That becomes clear, the story moves along. But one of the things that I wanted to be able to explore was Cheda learning about not only her mother, but her people. And through learning why her mother was doing what she was doing, that's part of the mystery, she learns about her own people and starts to recover some of the culture that was lost along the way. And so she is acting as a prism in a way. She is acting as not just herself, but her own family and her own culture as well. So that's something I wanted to bring out.
Oui, alors ce sur quoi je me suis penchée au tout début quand j'ai commencé à explorer l'identité du personnage de Cheda, c'était sa relation avec sa propre culture. Il faut rappeler que sa mère a été tuée quand elle était très jeune, quand Cheda était très, très jeune. Sa mère a été tuée par les 12 rois. Alors on ne sait pas pourquoi. Et un autre aspect qui est intéressant aussi dans le récit, c'est que sa mère n'a jamais expliqué à Cheda son héritage. Elle ne lui a jamais dit d'où elle venait, ni pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait, ce qui laissait beaucoup, beaucoup de mystères planer sur la vie de Cheda. Et j'ai voulu, en écrivant ce roman, amener Cheda à apprendre à travers ce qu'elle allait découvrir de sa mère, à apprendre à propos de l'humanité tout entière et de sa propre culture, en levant justement le voile de mystère. Et effectivement, Cheda, à mesure qu'elle avance, finit par un petit peu retrouver des pans de sa culture qui avaient été perdus. En fait, elle joue un peu le rôle de prisme, parce que évidemment, elle agit pour elle-même, pour venger sa mère, c'est des motivations personnelles, mais elle le fait aussi pour sa famille, et puis, mais aussi pour la communauté au sens large.
Gabriel Katz, est-ce que c'est...
Ce que dit Bradley Pivolieu sur la lutte entre le bien et le mal, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu comme thème assez prégnant et récurrent en fantasy, mais ce qui me paraît intéressant dans l'étude de cette lutte-là, c'est que le mal finalement peut exister sur deux incarnations, typiquement dans le genre. Le genre en parle beaucoup, mais en gros, il y a le mal très archétypal, il y a le mal très distant, qui est l'essence même de l'opposition, de l'adversaire, du mal. Sauron, par exemple. Sauron est une puissance très désincarnée, c'est l'orage en attendant Godot, quelque part. C'est une force, c'est presque une force de la nature. Est-ce que vous pouvez en vouloir à un orage d'avoir emporté votre maison? Évidemment, vous êtes très triste, mais l'orage, c'est juste une force de la nature. Il était là, c'est extrêmement triste ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à l'orage? Est-ce qu'on peut en vouloir à la nature du mal absolu, quelque part, d'être ce qu'il est? On lutte contre lui, bien entendu. On essaie de faire en sorte de ne pas construire sa maison sur la pente du volcan, mais on fait en sorte évidemment de le vaincre et de le chasser. Mais c'est plus un ennemi archétypal qui nous vient du conte et de la mythologie. Il y a un autre type de force maléfique qui est toute l'ambiguïté humaine, qui est tout le mal que les gens, qui sont normalement des gens dotés d'un certain libre arbitre, vont peut-être par faresse ou même délibérément choisir de faire. Et c'est pour moi c'est un mal qui est beaucoup plus terrifiant quelque part, parce que il existe en un sens il n'est pas essentiel en sens, c'est pas une essence, c'est des gens qui décident un moment de le faire. Je rebondis là-dessus parce que c'est ce que vous disiez sur Gunner dans Le Messager du Ciel. Justement, j'ai essayé de jouer avec les deux incarnations du mal. C'est voilà, il y a un autre, et pour moi en fait Juel qui est un être humain pur et qui est un simple être humain, et pour moi à mon humble avis, c'est quelqu'un de beaucoup plus effrayant, beaucoup plus maléfique que Ganner, qui est juste, qui est un mal essentiel comparé à Jules, qui est un mal humain et qui pour moi est beaucoup plus terrifiant et tragique.
Peut-être juste un mot, Lionel, avant de passer la parole à Olivier. Sur qui est Jules?
Jules est alors en fait dans le contexte du royaume, très rapidement, le roi est plus ou moins très malade, donc en gros il y a un conseil de régence qui gouverne à sa place. Juel est un des ducs qui sont les représentants de la province, qui sont là pour conseiller la reine, qui siège. Et Juel est le gouvernant de la province la plus riche et la plus aisée du royaume, et considère que cette situation d'instabilité, de laisser aller politique, n'a que trop duré, et qu'à un moment, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et ça peut paraître convenable sur le papier, mais évidemment, ce genre de à partir du moment où on suit ce genre de piste, ça peut éventuellement entraîner des conséquences qu'on peut éventuellement qualifier de discutables.
Le Piaf, depuis tout à l'heure, c'est un sujet qui me passionne. Mais d'abord, je voudrais dire un truc. Alors, désolé à la traductrice qui va devoir traduire ça, mais Bradley, salaud. Tu viens de me spoiler une partie de ton livre, vu que moi j'en étais à la partie, la mère n'était pas encore morte. Et sinon, pour le sujet, c'est vraiment un sujet qui me passionne, parce que moi, ce que j'ai essayé de faire sur tous mes livres, c'est justement de prendre le plus grand enfoiré possible qu'on puisse imaginer vraiment, qui peut avoir tous les défauts du monde, et essayer de le rendre sympathique auprès du public. Et je suis complètement d'accord avec ce qui avait été dit, c'est-à-dire que moi, j'ai un éditeur jeunesse qui m'a expliqué les choses de cette manière, je trouve ça vraiment super intéressant. Il m'a dit, avant 10 ans, on lit tous ce qu'on appelle une littérature de construction. Et dans la littérature de construction, il n'y a pas de gris. Parce que quand on est jeune, quand on est enfant, il faut qu'on comprenne qu'un policier, c'est quelqu'un de gentil, parce qu'il est là pour nous aider. Il faut comprendre qu'un malfrat, c'est quelqu'un de méchant. Un voleur, c'est quelqu'un de méchant. Parce que c'est ça qui va construire finalement notre psyché, c'est ça qui va construire nos bases. Et à 8 ans, un enfant n'est pas prêt à comprendre que le policier, il est peut-être gentil, mais il bat sa femme. C'est pas ce qui va passer. Et à partir effectivement de 10 ans ou plus, là on peut se permettre de rentrer dans un certain nombre de nuances. Alors évidemment, la notion de 10 ans est très, voilà, est tracée comme ça, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est vrai que pour pouvoir apprécier les nuances, il faut d'abord avoir le spectre des couleurs, il faut d'abord avoir toutes ces capacités. Et c'est parce qu'on part du principe qu'un policier est là pour faire respecter la loi, que du coup c'est beaucoup plus percutant quand on tombe sur un policier qui justement va avoir ses petits arrangements sur le côté. Parce que du coup on voit bien le côté gris des différents personnages. Et donc, effectivement, bah oui, c'est vrai que dans ce côté, le bien contre le mal, parfois, ça nous fait du bien en tant que lecteur de retomber un petit peu en enfance et d'avoir des héros et d'avoir des méchants, parce que ça nous permet de nous identifier. Et si vous regardez les faits divers, et ben les faits divers, souvent, les journaux, les radios, les télés cherchent des héros. Et vous allez avoir des articles sur la personne qui est sauvée. Alors, soit ça va être la personne qui va sauter du pont pour sauver un chien ou sauver un enfant. Je ne mets pas au même niveau les différentes qualités.
Nous avons noté que les chiens étaient sauvés avant les enfants.
Ah bah oui. C'est... Mais je prends un exemple qui nous a tous frappés. C'était le moment où il y a eu... quelque chose qui nous a tous frappé, c'était effectivement par exemple le moment où un terroriste a été désarmé dans le Thalys. Et c'est vrai que les journaux ont fait les gros titres, et c'était un héros, c'est quelqu'un qui, effectivement, la personne qui a mis sa vie en jeu pour le désarmer, mais du coup les journaux étaient trop contents, c'était formidable, c'était la lutte du bien contre le mal, c'était un héros qui s'est interposé pour empêcher quelqu'un de tuer des innocents. Et du coup, bah, ça nous plaisait, parce que le bien, parce que le mal, parce que blanc, parce que noir, et que du coup c'était très clair et très facile à comprendre. Voilà, pardon du coup d'avoir piaffé, mais parce que c'était un truc qui me touchait.
Gabriel Katz, le fantôme, l'homme, si c'est un homme, qui lève l'étendard de la révolte en Goranie, il suit ce genre de mécanisme de psychologie.
Alors lui, c'est un personnage un petit peu complexe. Pour être très franc, je ne crois pas réellement à l'intérêt collectif, j'ai jamais cru. Je pense que c'est juste des individualités qui se retrouvent à un moment ou à un autre dans des positions de domination ou de leadership, disons. Le fantôme, c'est un peu son cas. C'est quelqu'un qui, a priori, n'est personne, qui est un paysan de rien du tout, qui fêtait son mariage dans un gentil petit village. Ça ne s'est pas très très bien passé, je spoile pas, c'est la première scène du livre, un peu de choses près, c'est un mariage qui s'est très très mal passé, les occupants sont venus pour faire des gentilles offrandes, parce que c'est la tradition, et qu'on n'a pas fait depuis des années, que c'est merveilleux, qu'on reprend la tradition, tout ça, on vient avec des jolies offrandes. Au final, ça se termine en bain de sang. Et notre marié s'en sort par miracle. Il s'en sort, miracle si j'ose dire, d'ailleurs, il s'en sort défiguré, il s'en sort complètement lessivé psychologiquement. Et il veut plus qu'une chose, en fait, c'est se venger. Et c'est ça qui va le mener à monter une véritable révolution, en fait, à l'intérieur d'un pays occupé. Il n'aurait pas pris les armes par ailleurs. Il n'aurait jamais pris les armes par ailleurs. Finalement, les traceurs... C'est des gens qui occupent son pays, c'est pas vraiment son problème. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il lui arrive quelque chose, et c'est là qu'il prend fait et cause pour le bien, justement. Et le bien, c'est juste simplement son intérêt personnel, ou au moins sa vengeance personnelle. Donc, je peux pas dire ce qui va se passer dans le 2, mais il y a des révélations dans le 2 sur ça qui peuvent aussi être un petit peu violentes. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'il existe, franchement, je pense pas qu'il existe d'intérêt collectif. C'est-à-dire que la fameuse révolution qui lève le peuple contre les traceurs, c'est joli, c'est beau, Si on étudie chaque personnage de ce livre pour voir quelles sont ses motivations là-dedans, il n'y en a pas un seul dont la motivation est d'être, de venir sauver son pays. C'est pas leur but en fait. Ils ont chacun un intérêt personnel, y compris les héros, qui sont les héros, qui sont issus de mes autres romans, sont tous là pour quelque chose en fait. Je crois que c'est profondément humain.
Écoutez, on vient de me faire signe, parce que le temps a passé très très vite avec nos 4 auteurs. En tout cas, je crois qu'on peut les remercier pour nous avoir montré que si dans la fantaisie épique, il faut que ça saigne, que ça bastonne, c'est toujours pour de plus ou moins bonnes raisons. Merci.
Un tout petit mot de conclusion, vous notez que au niveau des métaphores et des images, Olivier a cité la ligne Maginot et Johnny Hallyday, nous on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on est très moderne en fait les auteurs, c'est terrible.